Chapitre 91, ne critiquons pas les frères responsables. L'Église souffre du manque d'ouvriers désintéressés. Si tous ceux qui ne peuvent résister à la tentation et ne sont pas capables de se conduire sans le secours d'autrui voulaient s'éloigner d'eux, il y aurait là une atmosphère spirituelle beaucoup plus pure. Ceux qui passent leur temps à découvrir les fautes des autres et se plaisent à relever leurs défaillances ne sont d'aucun secours pour leur entourage, mais constituent un fardeau envers la communauté dont ils font partie. L'Église a besoin, non de fardeau, mais d'ouvriers sérieux. Non de chercheurs de fautes, mais de constructeurs. Des missionnaires sont indispensables dans la cause de Dieu, des hommes qui garderont la forteresse, qui seront résistants comme le fer pour préserver l'honneur de ceux que le Seigneur a placés à la tête de son œuvre et qui feront tout ce qu'ils peuvent pour soutenir l'Église dans toutes ses activités, sacrifiant leurs propres intérêts, et même leur vie, si c'est nécessaire. Mais il m'a été montré qu'ils sont peu nombreux ceux dans le cœur desquels la vérité opère et qui peuvent soutenir l'épreuve de Dieu. Beaucoup parmi ceux qui ont connu la vérité n'ont pas été transformés par elle. Ils n'ont pas été purifiés de tout égoïsme. Certains se rendent avec l'idée de contribuer à l'avancement de l'œuvre, comme beaucoup d'anciens membres, mais ils auront de terribles comptes à rendre au Seigneur, car par les purs amours du moi et leur vie non consacrée, ils sont des obstacles au progrès de la cause de Dieu. La religion n'a une vertu salvatrice que si le caractère de ceux qui prétendent la suivre correspond à leur profession de foi. Le Seigneur a répandu généreusement sa lumière sur son peuple. Mais Satan y a aussi accompli sa mission, il a utilisé toute sa puissance pour entraver l'œuvre. Il s'est emparé des hommes et des femmes qui sont égoïstes et manquent de consécration, et il en a fait des sentinelles pour surveiller les fidèles serviteurs de Dieu, pour critiquer leurs paroles, leurs actions et leurs mobiles, et pour leur découvrir des fautes. Lorsqu'ils reçoivent des reproches, ils se mettent à murmurer. Par eux, Satan crée la suspicion et la jalousie, il cherche à affaiblir le courage de celui qui est fidèle, à plaire à celui qui n'est pas sanctifié, pour anéantir ainsi les travaux des serviteurs de Dieu. Le fruit de la critique. Satan a une grande puissance sur l'esprit des parents à cause de leurs enfants indisciplinés. Le péché des parents témoigne contre beaucoup d'observateurs du sabbat. La médisance et les racontars sont des spécialités de Satan pour semer la discorde, séparer les amis, et détruire la foi de beaucoup dans le bien fondé de nos principes. Les frères et sœurs sont trop disposés à parler des fautes et des erreurs qui peuvent exister chez les autres, et spécialement chez ceux qui sont chargés d'adresser des messages de reproche et d'avertissement de la part du Seigneur. Les enfants de ces censeurs impénitents ouvrent toutes grandes leurs oreilles et se délectent du poison dispensé par les mécontents. Les parents ferment ainsi aveuglément les avenues par lesquelles le cœur de leurs enfants pourrait être atteint. Que de familles assaisonnent leur repas quotidien de doutes et de critiques. Ils dissèquent le caractère de leurs amis, et servent cela comme un dessert délicieux. Un bon morceau de médisance fait le tour de la table afin d'être dégusté, non seulement par les adultes, mais aussi par les enfants. Tout cela déshonore Dieu. Jésus a dit, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est ainsi que le Christ est méprisé par ceux qui critiquent ses serviteurs. On a manqué de respect envers les serviteurs que Dieu s'est choisis, et, en quelques cas, ils ont été l'objet d'un mépris absolu de la part de certaines personnes dont le devoir aurait été de les encourager. Les enfants n'ont pas manqué d'écouter les remarques désobligeantes de leurs parents au sujet des reproches et des avertissements solennels des serviteurs de Dieu. Ils ont compris les moqueries et les critiques qu'ils ont entendues, et ils ont été amenés à mettre sur le même niveau les choses éternelles et les affaires temporelles. À quelle mauvaise besogne se livrent les parents en semant l'incrédulité dans le cœur de leurs enfants, et ceci même dès leurs jeunes années. Ils les amènent ainsi à être irrévérencieux et à se rebeller contre toute répréhension d'en haut. Où un tel mal existe, il ne peut y avoir que déclin spirituel. Ses pères et ses mères, aveuglés par l'ennemi, s'étonnent que leurs enfants aient des tendances à l'incrédulité et doutent des vérités de la parole de Dieu. Ils se demandent pourquoi ils sont si réfractaires aux influences religieuses. Si ses parents étaient spirituels, ils se rendraient compte immédiatement que cet état de choses déplorable est le résultat de l'atmosphère qui règne dans leur propre foyer. C'est là qu'est la source de leur jalousie et de leur manque de confiance. C'est ainsi que dans des familles soi-disant chrétiennes, l'incrédulité se glisse dans le cœur des jeunes. Ils sont nombreux ceux qui trouvent un plaisir tout particulier à parler des fautes, réelles ou imaginaires, des frères qui portent de lourdes responsabilités dans l'œuvre. Ils perdent de vue le bien accompli, les heureux résultats de durs travaux et l'attachement sans défaillance à la cause, pour s'arrêter à quelques prétendues erreurs ou aux conséquences qu'ont eues certaines décisions. Ils s'imaginent qu'eux-mêmes auraient fait beaucoup mieux. En réalité, s'ils avaient été chargés de ce travail, ou ils auraient refusé de s'en occuper, ou auraient fait plus mal que ce qu'ils critiquent. Mais ces incorrigibles bavards se cramponnent aux traits les plus désagréables de l'œuvre accomplie, comme le lichen s'attache au rocher. Ces personnes sont spirituellement diminuées parce qu'elles s'occupent continuellement des fautes des autres. Elles sont moralement incapables de discerner les bonnes et nobles actions, les efforts désintéressés, le véritable héroïsme, le sacrifice. Elles n'acquièrent pas plus de noblesse et d'élévation d'esprit. Elles ne deviennent pas plus généreuses. Leurs idées et leurs plans restent étriqués. Elles ne cultivent pas la charité qui doit caractériser la vie du chrétien. Chaque jour, elles descendent un peu plus la pente et leurs conceptions se rétrécissent. La petitesse est leur élément, et l'atmosphère qui les entoure chasse la paix et le bonheur. Les chrétiens doivent bien prendre garde à leurs paroles. Qu'ils ne prêtent jamais l'oreille aux rapports défavorables de l'un de leurs amis faits à un autre, surtout si ceux-ci ne sont pas en bons termes. C'est une chose cruelle que de faire des insinuations malveillantes, comme si l'on était très au courant des choses qui concernent autrui, ou qu'on sache ce que d'autres ignorent. De telles insinuations mènent loin, et créent une impression défavorable. Il vaudrait mieux relater franchement les faits sans les exagérer. Que n'a pas souffert l'Église du Christ par un tel état de choses? Les inconséquences de ses membres l'ont terriblement affaibli. La confiance a été trahie par les fidèles d'une même Église, et pourtant les coupables n'avaient nullement l'intention de faire du mal. Le manque de sagesse dans le choix des sujets de conversation a fait un mal considérable. On ne devrait s'entretenir que de choses divines, spirituelles. Malheureusement, il en est tout autrement. Si l'amitié entre chrétiens consistait surtout à enrichir son esprit et son cœur, on n'aurait jamais rien à regretter, et on se souviendrait avec joie des propos échangés. Mais si des heures sont gaspillées en paroles vaines, si un temps précieux est passé à disséquer les vies et les caractères de ses semblables, l'amitié aura été une source de maux, et l'influence exercée, une odeur de mort. Nous ne devons pas permettre à nos perplexités et à nos désappointements de consumer notre âme et de nous rendre chagrins et impatients. Qu'il n'y ait entre nous ni antipathie, ni mauvaise pensée, ni paroles désobligeantes, de crainte d'offenser Dieu. Mon frère, si vous ouvrez votre cœur à l'envie ou au soupçon, le Saint-Esprit ne pourra habiter en vous. Recherchez la plénitude qui est dans le Christ. Travaillez dans ce sens. Que chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions le révèle. Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour, celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. Cet amour apportera la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. Entourez-vous d'une atmosphère qui fortifiera votre vie spirituelle. Cultivez la foi, l'espérance, le courage et l'amour. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Le Seigneur vit et règne. Bientôt il apparaîtra dans sa majesté pour secouer terriblement la terre. Un message spécial doit être proclamé aujourd'hui, un message qui dissipera les ténèbres spirituelles, convaincra et convertira les âmes. Hâte-toi, fuis pour ta vie, tel est l'appel qui doit être adressé à ceux qui vivent dans le péché. Nous devons considérer sérieusement les temps dans lesquels nous vivons. Nous n'avons pas un instant à perdre en critiquant et en accusant nos frères. Que ceux qui l'ont fait dans le passé se mettent à genoux et prient. qu'ils se gardent de mettre leurs paroles et leurs plans à la place des paroles et des plans de Dieu.